C'est jamais un métier vers lequel on va se tourner, entre guillemets, par dépit, parce que ça fonctionnera jamais. Vu les conditions, on le fait pas parce qu'on doit aller travailler, on va pas devenir matelot, on va devenir matelot parce qu'on a envie d'aller travailler en mer.
Bienvenue à toutes et à tous, c'est Émilie, la soifée des rêves accessibles. Je vous invite à prendre un virage à 180 degrés. Dans ce podcast, vous écouterez des parcours de reconversion professionnelle, voulus ou subis, de femmes et d'hommes qui m'ouvrent leurs portes un peu partout en France. Cette immersion est l'occasion de mieux comprendre les étapes de changement de vie et sûrement de vous livrer quelques clés loin des idées reçues qui permettent de se dire que tout est possible.
À 180 degrés.
Pour ce 12e épisode, exit la simulation et l'expérimentation, place aux règles de barre, à l'arrimage et à la navigation. C'est à Cherbourg en Cotentin que je vous emmène rencontrer Timothée Gaudret, qui à 21 ans compte bien vivre de sa passion de la pêche en qualité de matelot-pont. Quand une formation financée par Pôle emploi permet de valoriser un attachement à la mer en y faisant carrière.
Dans la plaisance, vous avez des sortes de sacs qui contiennent le radeau, qui sont souvent stockés à l'intérieur du voilier. De plus en plus, on voit des voiliers avec les mêmes radeaux que les navires de pêche. Mais les radeaux en sac sont beaucoup moins chers, donc il y en a beaucoup qui prennent ce genre. Mais là, ça oblige forcément à le déclencher manuellement. Donc, maximum 150 places, vous le voyez. Alors celui-ci il bénéficie d'un avantage, c'est qu'il est auto-retournable. Il se remet auto-redressable ou retournable. Par contre, il faut des moyens d'embarquement dedans, qui peuvent être des toboggans ou, comme je vous ai montré hier, des chaussettes.
Bonjour Timothée.
Bonjour.
Je suis ravie de vous rencontrer au lycée professionnel maritime et aquacole Daniel Rigolet de Cherbourg. Vous venez de recevoir un cours de...
Technique individuelle de survie.
C'est utile ça pour devenir matelot ?
C'est très utile dans le sens où on espère que ça ne nous serve pas. C'est-à-dire que dans le cas d'urgence, être formé et savoir quoi faire pour s'en sortir sain et sauf.
Vous étiez destiné à devenir ingénieur après un parcours scolaire normal. Vous avez fait 2 ans de prépa en physique-chimie. Vous vous êtes rendu compte au final que ce n'était pas du tout la voie que vous vouliez suivre.
Par rapport à mes résultats scolaires, pour l'intérêt, on m'a toujours dit « En fait, tu es un futur ingénieur, tu vas voir, tu vas adorer ça ». C'était peut-être vrai il y a quelques années, mais l'ingénieur d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui me correspond. Dans le sens où j'avais qu'un seul critère pour choisir mon métier plus tard, qui était de ne pas passer ma vie derrière un écran d'ordinateur. Le métier d'ingénieur actuel compromet ce critère. Donc voilà, j'ai choisi plutôt de suivre ma passion, c'est-à-dire... qui est la pêche, et en lien avec ma passion, c'est le milieu de la mer, et du coup, je me retrouve ici pour devenir matelot.
Parce que quand vous étiez petit, vous vouliez devenir guide de pêche.
Mon métier de rêve, ça a toujours été, et c'est encore actuellement, devenir guide de pêche, mais c'est un métier qui est quand même réservé à un faible pourcentage de personnes qui s'y essayent. En attendant, entre guillemets, je fais ce qui se rapproche le plus, c'est-à-dire que au lieu d'emmener les gens pêcher, j'ai envie de pouvoir les amener juste se promener en mer, tout simplement les faire naviguer.
Donc vous avez terminé vos études et vous vous êtes orienté vers la mission locale d'Honfleur, là où vous habitiez.
Après du coup le premier semestre d'école d'ingénieur, j'ai décidé d'arrêter et je me suis tourné vers la mission locale qui a fait le lien avec Pôle emploi dans tout ce qui était recherche de formation, démarches concernant les financements. Vraiment, j'ai eu, à part le premier entretien, tout s'est déroulé via la mission locale avec un suivi qui est personnel. C'est elle qui m'a mis en relation entre guillemets avec le lycée professionnel auquel je suis actuellement formé pour cette formation qui est le certificat matelot-pont et qui représente la formation d'entrée au domaine maritime pour pouvoir tout simplement être embarqué sur un navire.
Donc c'est le fameux CMP. Et pourquoi ce lycée en particulier ?
Pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un lycée qui est assez proche de chez moi. Il y avait celui-là et celui de Fécamp. Et j'ai choisi celui-là parce que c'est via ce lycée-là que mon père a été formé quand il a passé ses formations pour devenir marin-pêcheur.
C'est une histoire de famille alors ?
Oui, c'est-à-dire que l'histoire de la famille, c'est surtout la reconversion dans le sens où mon père, c'est son deuxième métier. Il était avant dans le domaine de l'événementiel. Et moi, j'étais destiné à devenir ingénieur et finalement, je reviens aux sources, entre guillemets, pour faire un métier qui me plaît tout simplement.
Donc vous voyez, les portées estimées des moyens pyrotechniques, une fusée parachute, on considère qu'elle est visible de 10 à 15 000, du fait de la hauteur qu'elle va, et forcément, là vous avez le sigle, plus visible de nuit que de jour. Le feu à main, on considère que c'est 2 à 5 000 de portée, pareil, plus visible de nuit que de jour, et le fumigène flottant, bah, de 1 à 3 000, et lui, c'est plus visible de jour que de nuit. Parce que de nuit, il y a juste la flamme, vous voyez. Le orange n'est pas fluorescent, n'est pas phosphorescent, donc on ne le voit pas.
Timothée, ce qu'il y a d'intéressant avec ce fameux CMP, certificat matelot-pont, c'est que ça touche à différents métiers qu'on ne soupçonne pas forcément.
Quand on pense aux matelots, le premier métier qui nous vient en tête, c'est les marins-pêcheurs, tout simplement, qui sont pour la plupart sur les chalutiers, en tout cas sur nos côtes. Mais ça touche aussi tous les métiers dans le domaine du commerce. Il y a plein de postes différents en tant que matelot sur les navires de commerce. Également sur les navires à passagers, donc par exemple surtout sur la côte normande avec les ferries ou tout simplement les bateaux qu'on va considérer comme les bateaux de promenade qui proposent des excursions en mer.
Donc pour l'instant, qu'est-ce que vous apprenez ? C'est à calculer les hauteurs d'eau, c'est du ramandage. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la réparation de filets. Qu'est-ce que vous faites ?
On a commencé avec les calculs de hauteur d'eau, tout simplement, pouvoir savoir, entre guillemets, comprendre les marées, pouvoir savoir si oui ou non, à telle heure, on pourra passer à l'endroit auquel on a prévu de passer. Le ramandage, voilà, vu que le matelot, surtout sur nos côtes, c'est grandement destiné à la pêche, savoir réparer un filet, c'est quelque chose qui est quand même important. Et ensuite, on a eu des exercices de simulation pour nous apprendre à réagir face à des situations entre guillemets concrètes auxquelles on pourrait faire face. Ensuite, on a par exemple des tracés de route à faire sur des cartes parce que même si aujourd'hui on se repère tous ou presque par les GPS, on n'est pas à l'abri d'une panne de GPS en mer et c'est important de pouvoir se repérer grâce aux phares, grâce à tout ce qu'on peut repérer à terre. Alors pour l'instant, les étoiles, ça correspond pas à notre formation, mais voilà, on sait que par rapport à certains repères connus à terre, on est capable de retrouver derrière sa position sur une carte, de déduire sa route pour pouvoir rentrer à bon port.
Par rapport aux opportunités que vous pourriez avoir, donc votre préférence, c'est de s'orienter vers skipper. Est-ce que, par exemple, pourquoi pas un temps marin-pêcheur ?
La pêche de manière, alors pas industrielle, mais automatisée, par exemple avec les chaluts, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu du mal vis-à-vis de ma passion parce que c'est pas du tout l'aspect que je connais en tant que pêcheur à la ligne.
Pour la pêche responsable ?
Oui, c'est ça. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est justement ce qu'on appelle la pêche responsable avec des plus petites quantités, une pêche plus respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire qui va beaucoup moins détruire les fonds. Et surtout, préférer la qualité à la quantité. Je préfère valoriser un produit qu'essayer d'en pêcher le plus possible.
On a beaucoup de mal aujourd'hui à recruter des marins pêcheurs. Vous comprenez ou pas ? Parce que le métier paraît quand même très difficile.
En cours de sécurité, on l'a vu, ça laisse pas de doute. Le corps de métier des marins, c'est le corps de métier le plus accidentogène qui soit. C'est un métier dans lequel il faut se lancer par passion dans le meilleur des cas, mais sinon, il faut y trouver son intérêt autrement que par la paye à la fin du mois. Il faut partir en mer et avoir la volonté de partir en mer. On part pas au travail, on part en mer. Même si la majorité des marins en vivent bien, on est loin des payes astronomiques dont on pourrait s'imaginer, par exemple, pour les capitaines sur les ferries ou des gros navires comme ça.
Une question pour moi, il y a un pas gigantesque entre skipper sur un voilier, enfin moi c'est l'image que j'ai, et marin-pêcheur. Skipper, est-ce que c'est vraiment l'image que l'on peut avoir ?
Ce qu'on voit en tant que grand public du skipper, c'est les skippers du Vendée Globe, de la Route du Rhum, c'est ceux qui sont médiatisés. Le problème, c'est que le métier ne s'arrête pas là. La majeure partie des skippers, leur métier, c'est par exemple d'effectuer du convoyage, donc à la voile. Tout simplement, par exemple, pour des bateaux qui sont mis en location pour les amener d'un point A à un point B. Ce qui m'a attiré, alors il y a d'une part les excursions, mais il y a aussi, par exemple, dans les locations de bateaux, les gens qui veulent louer un bateau mais qui n'ont aucune notion maritime vont faire appel à un skipper qui va s'occuper de la navigation pour que les autres puissent tout simplement profiter sans soucier du reste. Il y a encore autre chose qui est que skipper, on peut tout simplement être skipper, c'est-à-dire employé, pour s'occuper d'un navire à l'année, pour que son propriétaire n'ait pas à s'embêter avec les questions pratiques, on va dire.
Timothée, maintenant, je vais vous laisser retourner en cours et on se retrouve après.
Donc les combinaisons d'immersion, ce qu'on va avoir la chance de plonger cet après-midi avec, Donc, vous voyez, elle doit pouvoir être endossée sans assistance en moins de 2 minutes. Ça, on le vérifiera. Hein? Recouvrir la totalité du corps à l'exception du visage. Effectivement, il n'y a que ça qui reste en contact avec l'eau. Elle doit permettre de s'acquitter des tâches courantes liées à l'abandon du navire, de monter et de descendre une échelle verticale d'au moins 5 mètres de long. C'est pour ça qu'on saute dans le bassin, puisqu'il faut bien remonter par une échelle. De sauter à l'eau d'une hauteur minimale de 4,50 m, ça malheureusement on peut rarement l'avoir ici, je vous dis à Granville on a même beaucoup plus. De nager sur une faible distance, ça vous verrez que dans cette combinaison on s'épuise très vite à nager. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour quoi ? Pour attendre les secours.
Au départ, vous étiez voué à être dans un bureau en tant qu'ingénieur. Là, dehors, à avoir froid. C'est ce que vous allez voir un peu plus tard en combinaison de survie. Est-ce que ça, la difficulté physique, c'est quelque chose qui peut un petit peu rebuter ou pas ?
En tout cas, dans le domaine de la pêche, le métier de matelot est un métier très physique. Après, bon, dans d'autres domaines, c'est dans des moindres mesures. Ça reste pas une partie de plaisir parce que on sort quand il fait beau, oui, mais on sort aussi quand il fait pas beau. Et c'est tout de suite moins agréable quand on se prend des litres d'eau sur la figure assez régulièrement. C'est un métier où on sait qu'on y va et qu'on va galérer, quoi. Après, de toute façon, c'est un métier dans lequel on tombe pas par hasard. Bien souvent, ça part soit d'une passion qui peut être totalement personnelle, bien qu'elle soit souvent amenée par un membre de la famille, qu'on baigne un petit peu malgré nous dans ce milieu-là pendant qu'on grandit. Et forcément, ça prend une place au moment de choisir notre vie professionnelle. C'est un choix qui vient plus ou moins naturellement, mais en tout cas, c'est jamais un métier vers lequel on va se tourner, entre guillemets, par dépit, parce que ça ne fonctionnera jamais. Vu les conditions, on ne le fait pas parce qu'on doit aller travailler, on ne va pas devenir matelot, on va devenir matelot parce qu'on a envie d'aller travailler en mer.
D'ailleurs, on le voit parce que certains de vos collègues viennent aussi bien de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Guyane.
Oui, c'est ça. Ce sont des îles très réputées pour la qualité de leurs marins, justement. Tout simplement parce que la pêche représente une énorme partie de l'activité professionnelle locale. En Guyane, c'est un peu moins le cas, mais il y a beaucoup, par exemple, avec le centre spatial à Kourou, la sécurité en mer doit être assurée. Et donc, ça implique tout simplement des marins qui vont être associés à cette tâche-là. Il y a des besoins partout, en fait.
Et en parlant d'international, est-ce que vous voudriez, au final, voyager et en profiter pour faire votre métier dans un autre pays ou rester ici en France, sachant que dès que vous êtes formé, vous êtes sûr de trouver du travail ?
C'est vrai qu'actuellement en France, il y a une demande qui est quand même assez grandissante. L'avantage, c'est que cette formation-là, elle est, on va dire, normée à l'international, ce qui fait qu'en sortant du lycée, je peux très bien partir et être embarqué à l'autre bout du monde. Ça ouvre des portes qui sont assez monumentales. Ça ne nous cantonne pas à partir sur le bateau du coin. On peut vraiment faire pas ce qu'on veut, mais on trouvera forcément ce qu'on veut parmi les métiers qui vont nous être ouverts après cette formation-là.
Et Timothée, si jamais vous avez envie de devenir capitaine, est-ce que vous pouvez compléter cette formation de CMP ?
Après, oui, il y a d'autres formations qui permettent d'accéder à des postes à responsabilité. Donc, par exemple, capitaine, avec plusieurs formations derrière. La première étant le capitaine de sang, qui permet, par exemple, la plupart des navires qu'on va avoir sur nos côtes, de pouvoir tout simplement le diriger nous-mêmes. Et ensuite, des grades supérieurs avec le capitaine 500, qui a une vocation plus internationale. Je crois que ça monte jusqu'au capitaine 3000, qui est vraiment pour diriger tout simplement des gros paquebots, des gros porte-conteneurs, vraiment pour l'international.
Merci Timothée. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour enfiler votre combinaison et sauter dans une eau à 4 degrés, je pense. Non, 10 degrés ?
Ouais, t'as 10 degrés.
Dans une eau à 10 degrés et on se retrouve après.
Voilà, je ne fais aucun mouvement. Alors vous allez voir, il y en a certains qui vont avoir du mal à se mettre debout. Ce n'est pas la position idéale. Debout, c'est la position pour faire les exercices. La position idéale, c'est la position d'attente, c'est-à-dire... Voilà, là, je peux faire la sieste. Hein. J'ai mon petit oreiller, je suis tout à fait tranquille. Hein. Qu'est-ce qui est remonté en premier ?
La jambe droite. Ça impressionnant.
Tu fais des petits mouvements de bras comme ça et tu te mets derrière avec eux.
Oui, oui, j'y vais.
Ce que l'on va faire maintenant, c'est... Ça fait qu'il faut retenir de tout l'exercice, c'est ce truc-là. Imaginez qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui n'aurait pas de combinaison. Donc, ce qu'on va confectionner, ça va être ce qu'on appelle un brancard humain.
Thierry, vous êtes formateur au lycée professionnel maritime et aquacole Daniel Rigolet de Cherbourg. Alors bon, alors les auditeurs ne peuvent pas vous voir, mais vous êtes en combinaison, on peut dire, tout orange de Teletubbies pour les exercices de survie que vous avez donnés cet après-midi. On peut dire que Timothée est un bon élève ou pas ?
On peut dire que Timothée est un bon élève, hein. Il a réussi parfaitement les exercices qu'on lui a demandés. Alors, juste une précision, effectivement, on ressemble à Casimir, Teletubbies. C'est une combinaison qui s'appelle la combinaison Rigolet, du nom du lycée maritime Daniel Rigolet. Monsieur Rigolet est un monsieur qui a inventé cette combinaison et qui l'a rendue célèbre au niveau mondial grâce à son étanchéité et tout ce qui s'ensuit. Donc Timothée, oui, a parfaitement réussi les exercices. Je pense qu'il en a un petit souvenir agréable et c'est le but que je veux avoir.
Timothée, oui, ça le fait sourire.
c'est surprenant. C'est-à-dire qu'on n'est pas habitué à flotter si facilement. On peut s'attendre, vu que la combinaison est un peu démesurée, on peut s'attendre à avoir les gestes limités. Et en fait, on se déplace presque comme on veut. On a presque envie d'y rester plus longtemps et que ça nous arrive.
Quelle est l'importance de ces exercices pour un futur matelot-pont ?
Tous les bateaux ne sont pas équipés de ces combinaisons. Normalement, c'est les plus de 12 mètres pratiquant les arts traînants. Enfin, il y a des spécificités qui font que les bateaux sont équipés ou non. Mais c'est surtout de ne pas avoir l'appréhension de l'eau. Il y a certaines personnes qui ont une peur bleue de l'eau, qui sont pourtant des marins. Là, le fait de mettre une combinaison et d'aller dans l'eau comme on l'a fait, il y en avait un parmi nous là, qui n'était pas à l'aise dans l'eau et il a fait les exercices sans problème. Alors qu'il l'a avoué lui-même, il n'a été que deux fois dans l'eau dans sa vie. Ça permet vraiment de participer à une moins grande appréhension de l'eau et du milieu humide et maritime en général.
Pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les principales qualités qu'il faut avoir pour ce métier s'ils avaient envie de se lancer ?
Pour l'inscription, quand on s'inscrit au CMP, on a une mention CNAGÉ de 50 mètres qui est obligatoire. C'est officiel, mais bon, le problème, la mention 50 mètres, on peut la faire dans une piscine. Ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans la mer. Après, je dirais que même un niveau d'études faible peut accéder au CMP sans problème. Après, le capitaine de sang et les autres formations sont un peu plus compliquées. Mais le CMP étant l'accès à la profession, c'est pas là où c'est le plus dur. Il y a surtout de la compréhension du système, de tous les systèmes de sauvetage et autres, mais c'est pas là où c'est le plus dur.
Merci messieurs, bonne continuation.
Oui, on va aller changer maintenant, on va retirer notre combinaison parce que bon, on aime bien être à l'aise quand même.
Merci beaucoup.
À 180 degrés.